Souvenir FM.
Il est midi.
L'invité du 12-13 de Souvenir FM.
Souvenir FM.
Bonjour à toutes et à tous. Merci David pour l'animation. On te retrouve tout à l'heure si on n'a pas fondu. C'est l'heure de l'invité du 12-13, votre émission préférée, celle qui met en avant vos acteurs locaux, ceux qui font vivre le territoire. Aujourd'hui, on est allé chercher un peu plus loin à la fraîcheur. Nous recevons aujourd'hui Jean-Sébastien Alti, directeur de l'Office du tourisme d'Andaille. Bonjour, comment allez-vous ?
Bonjour, merci, et vous ?
Très bien. On va passer alors une heure ensemble, on va découvrir un petit peu votre belle ville et aussi un joyau du Pays Basque, c'est le château Abadia. Alors, il y a certains de nos auditeurs qui doivent le connaître et d'autres ne le connaissent pas encore. Et j'espère qu'à la suite de cette émission, ils auront envie d'aller le visiter parce que ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment un très beau bâtiment assez exceptionnel. Voilà. Alors, on va d'abord écouter le flash info national et international, et on se retrouve ensuite pour la première partie de cette émission. Et voilà, c'est parti pour cette émission. Donc, nous sommes avec Jean-Sébastien Alti, directeur de l'Office du tourisme d'Andaille. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et découvrir un petit peu ce joyau et ce qui l'entoure aussi, on va vous demander une petite trajectoire personnelle. On aime bien savoir un petit peu quelle est la trajectoire de nos invités, qui fait que, voilà, ils sont à ce jour devant notre micro. Et quel a été votre parcours, si vous voulez bien vous prêter à cet exercice?
Alors, je suis natif de Cambo-les-Bains, donc station thermale où on trouve aussi une très jolie maison qui s'appelle Arnaga,
voilà.
Donc la maison d'Edmond Rostand. Mmh. Et ensuite, je suis parti faire une licence d'histoire à Bordeaux, suivi d'une maîtrise, donc ce qu'on appelle aujourd'hui un master 1, de géographie de tourisme, avant de me diriger vers Lyon pour faire un master 2, donc un DESS, mmh, toujours sur le tourisme et l'aménagement du territoire. Et si je me suis orienté vers les métiers du tourisme, c'est parce que, étant étudiant, j'ai eu le plaisir de travailler pendant 3 ans à Arnaga comme guide,
ouais, voilà,
de travailler au terme de Cambo, de passer par l'Office de tourisme de Bordeaux. Et c'est ces diverses expériences qui m'ont donné le goût pour le tourisme, en me disant que c'était vraiment un secteur qui pouvait créer de l'emploi à l'année pour le Pays Basque, hein, en l'occurrence, et de manière générale sur pas mal de territoires français. Donc c'était l'idée de se servir de ce secteur économique qui est du loisir, pour faire en sorte que ça bénéficie à la population et qu'elle puisse en vivre correctement. Et donc, suite à mes études, je suis monté à Paris. J'avais le choix entre travailler sur les Pyrénées orientales ou découvrir la capitale. J'ai voulu voir ce qu'était Paris, j'y suis allé.
Oui.
C'était un cabinet d'études, donc c'était un travail d'ingénierie pour monter des petits centres qui combinaient de l'hébergement, de la restauration, des centres de séminaires. Et finalement, Paris, c'était pas forcément ma tasse de thé, donc j'ai eu l'occasion de décrocher un travail à Nuits-Saint-Georges, en Bourgogne, donc la capitale des Bourgogne.
Quand je dis Nuits-Saint-Georges, ça me fait penser à quelque chose de rouge, hein.
C'est ça, du rouge. Oui, donc il y a aussi sur le territoire qui me concernait l'abbaye de Citeaux, hein, les cisterciens avaient leur abbaye là-bas, et puis le château du Clos-Vougeot avec donc la confrérie des chevaliers du Tadevin, qui sont là pour représenter dignement les vins de Bourgogne. Et suite à ces expériences, il y a un poste qui s'est ouvert sur Andaille. Et puis j'ai eu la chance de passer le cap des différents entretiens. J'y suis maintenant depuis une vingtaine d'années.
Oui.
Avec une structure qui avait évolué au fil du temps. C'est un office de tourisme à la base. Et puis ensuite, on a récupéré la gestion du château observatoire Abadia. On va en parler tout à l'heure. C'est une propriété de l'Académie des sciences.
Oui.
Mais l'Académie des sciences, depuis 2011, a décidé de confier en délégation de service public, c'est-à-dire d'avoir un locataire, un exploitant pour son site. Voilà, donc on s'en occupe depuis quelques années. On s'occupe de l'événementiel en partie sur la ville d'Andaille avec 200 rendez-vous. Le prochain est Andaille Fête d'été avec pendant 4 jours du 9 au 12 juillet, 13 juillet. Donc des animations tous les jours avec des spectacles de feu qui sont proposés le soir sur la plage, qui sont totalement gratuits. Et on gère aussi, et on a créé un nouveau musée dont on parlera aussi pendant votre émission, qui est la Cité des Mémoires, qui permet de découvrir de manière assez interactive et atypique une grande partie de l'histoire locale, donc de celle du Pays Basque.
Oui. Alors justement, cette histoire locale, on va en parler un petit peu. Avant de parler forcément que du château, on va aussi parler du contexte, tout ce qu'il y a autour. Il y a vraiment de l'histoire. Hein. On a discuté un petit peu hors antenne. Et voilà, c'est une ville particulière qui a une certaine histoire. Il y a un fleuve aussi qui a du sens, qui a de l'importance pour cette ville, hein, qui a servi de frontière un petit peu entre l'Espagne et la France.
C'est ça. Donc à la base, si on revient un petit peu sur les aspects historiques, Andaille, c'est un quartier de Durugne, au même titre que Biriatou et Cibourg, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les communes du Pays Basque. Et donc, c'est donc Louis XIV qui va donner son indépendance à Andaille. Donc on a une vraie rivalité autour de la Bidassoa, ce fleuve frontière qui sert donc de délimitation entre la France et l'Espagne, avec jusqu'à l'arrivée de Louis XIV finalement, donc une volonté hégémonique de l'Espagne d'administrer, de gérer en totalité la Bidassoa, notamment sur la partie pêche. Et donc c'est avec Louis XIV qu'on a des premières fortifications qui se mettent en place face à des remparts très très solides côté espagnol en Daribia. Et quelques années plus tard, on a Vauban qui va venir avec ses disciples pour faire en sorte de construire des fortifications plus importantes pour défendre la ville, faire en sorte que la Bidassoa soit vraiment un espace partagé entre la France et l'Espagne. Et jusqu'à l'ouverture des frontières, jusqu'à Schengen, on avait vraiment cette frontière géographique qui était présente, avec aussi des questions de monnaie qui n'étaient pas les mêmes des deux côtés de la Bidassoa, avec le développement par la suite de la contrebande au fil des années, puisque forcément qu'on est sur deux pays, des administrations différentes, de la réglementation différente, il y a des tentations qui se mettent en place.
Bien sûr.
Et donc aujourd'hui, c'est plutôt un espace ouvert dans lequel donc, on a un bassin de vie de 90 000 habitants, Irun 60 000, Andaribia 15 000 et Anday 18 000 habitants. Et donc les trois villes communiquent et coopèrent même depuis 1995 dans le cadre d'une agglomération de droit espagnol, mais qui est sur deux pays européens, qui a différentes compétences sur le tourisme, la culture, le sport et les transports.
Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu d'hybride dans la manière de fonctionner déjà depuis longtemps, en fait. Alors, ce qui est intéressant, une petite anecdote, c'est il y a une île, l'île des Faisans. On va en parler de ça parce que bon, il s'est passé quelque chose. C'était le traité des Pyrénées en 1659. Donc cette île des Faisans, déjà, ce nom, on n'a pas du tout un rapport a priori avec le volatile qu'on aime bien chasser dans les Landes.
Non, alors c'est pas le volatile, c'est les faisans, voilà. les ayants droit finalement. Et donc en prélude du mariage de Louis XIV avec l'infant d'Espagne, on a Don Luis de Haro qui était le premier ministre espagnol et Mazarin qui se retrouvent pendant plusieurs mois sur un lieu qui se veut neutre. C'est l'île de Faisans, c'est une petite île qui fait à peine 2000 mètres carrés, qui est à quelques mètres à peine du centre-ville d'Anday et du centre d'Irun, où donc les deux délégations françaises et espagnoles se retrouvent pour négocier ce que l'on va appeler le traité des Pyrénées. Et suite à celui-ci, donc on aura le mariage de Louis XIV tout d'abord par procuration dans l'église de Andaribia, puisque le roi français ne pouvait pas mettre un pied sur le territoire espagnol, hein, sinon c'était un acte de guerre qui était déclaré. Et une fois que le mariage par procuration a eu lieu, on a la fin d'Espagne qui est venue à Anday, et après les deux se sont mariés donc, dans l'église de Saint-Jean-de-Luz.
Alors, cette fameuse île, il y a quelque chose de particulier aussi. C'était alors un terme qu'on n'a pas l'habitude d'employer en ce moment, un condominium. Hein. Donc, elle était administrativement française, espagnole, et ça changeait tous les 6 mois pendant une certaine période. Ça a été quelque chose d'assez pas très courant, on va dire.
Alors voilà, donc c'est un peu l'histoire de l'île. Elle était, comme je disais, un petit peu neutre, ce qui a permis aux deux délégations françaises et espagnoles de s'y retrouver. Et aujourd'hui encore, elle conserve ce statut de condominium, c'est-à-dire que 6 mois par an, pour faire simple, de septembre à février, elle est administrée par la France, ensuite elle est administrée par l'Espagne. Donc sur cette île, il ne s'y passe pas grand-chose. Hein. On a un monument qui a été installé et qui commémore le traité des Pyrénées, puis son tricentenaire. Ensuite, on a ponctuellement, notamment à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, possibilité d'y aller, sous réserve que la Marine nationale puisse nous mettre des embarcations à disposition et que la marée soit aussi en notre faveur, sinon on ne peut pas naviguer, on ne peut pas la traverser. Et on a aussi des associations historiques locales, notamment je pense à Agora Chigundi, qui proposent ponctuellement de faire des petites visites côté français, sur la rive française, mais on voit donc à une cinquantaine de mètres à peine l'île des Faisans. Et il parle un petit peu de l'histoire de ce site. Et c'est une émission, un statut qui a été présenté dans l'émission Carambolage d'Arte, qu'on retrouve dans notre musée qui s'appelle La Cité des Mémoires à Anday, où on explique vraiment le fonctionnement de cette île qui a un statut très très particulier.
Oui. Et donc ce condominium, il est toujours d'actualité en fait.
Il est toujours d'actualité.
Moi j'ai pensé qu'il s'était arrêté.
Un des plus petits condominiums du monde, il y en a d'autres. Mais c'est un des plus petits du monde.
Ah ouais, c'est-à-dire au lieu d'avoir un no man's land qui est à personne, là on a un truc intermédiaire mais qui appartient successivement à l'un puis à l'autre.
Ça permet notamment d'entretenir, de couper les arbres, de faucher les herbes. Donc,
C'est un petit peu comme la garde partagée ou alterner des parents divorcés avec les enfants.
Ça peut être. On peut faire le parallèle.
Voilà, on va dire ça. Ouais, donc voilà, c'est intéressant, ce fonctionnement. C'est un peu une anecdote vraiment locale. C'est sympa. Je voulais qu'on parle aussi. On a parlé un petit peu en antenne, une anecdote aussi qui est marrante. Voilà, c'est, on parle des Pays Basques. Les Basques, c'est, voilà, même les gens n'ont pas forcément toujours conscience, mais c'est un peuple de voyageurs. Ça l'a toujours été. Et voyageurs et puis pêcheurs aussi. Hein. Je crois que les voyages étaient aussi peut-être dictés par la nécessité, voilà. Le besoin de chasser, là, notamment la baleine.
C'est ça, tout à fait. On m'a repris sur le terme. On ne pêche pas la baleine, on chasse la baleine. Tout à fait.
Ouais.
Et dès le 15e siècle, on a donc les marins basques, hein, qu'ils soient basques espagnols ou basques français, qui embarquent de Passaïa, Saint-Sébastien, Saint-Jean-de-Luz, pour aller chasser la baleine. Donc très rapidement, ils se retrouvent au Canada, au large de Terre-Neuve, pour pêcher le cétacé. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces Basques, quand ils sont partis là-bas, devaient ramener après la viande, l'huile, etc., en France. Et pour ce faire, pour gagner du temps, il y a différentes techniques qui ont été éprouvées. Et l'une d'entre elles a été imaginée par un Basque. Ça permettait, une fois le cétacé pêché, de directement sur le bateau faire fondre sa graisse, récupérer les différents morceaux de viande pour ensuite donc les ramener en France. Ça évitait de débarquer le poisson une fois qu'il avait été pêché, ça évitait donc ou ça limitait donc le risque de se faire piller, et donc ça rassurait un petit peu sur la qualité de et la quantité de cargaison qui serait ramenée après sur le continent.
Oui, alors comment est-ce qu'ils conservaient ? J'imagine que c'était du salage. C'est le seul moyen de parce qu'il n'y a pas de glace.
Non, c'est du salage, tout à fait.
Du salage, ouais, voilà. Oui, donc l'anecdote dont je parlais, hein, c'est qu'ils montaient un petit peu haut, hein, pour chercher les baleines. D'ailleurs, les baleines, elles aiment bien l'eau froide, hein, souvent. Et donc, il y avait des petits frottements quand même avec l'Islande. Hein. Et donc, il y avait une loi. Alors ça, c'est vraiment marrant, mais c'est vrai, hein, c'est vérifié.
C'est vérifié, tout à fait. Il y avait... Alors, c'est les différentes nations, que ce soit les Anglais, les Danois, etc. Donc, ça a donné la compétition, que ce soit pour la pêche. Et puis, par la suite, on a connu aussi la période des corsaires, hein, qui a perduré jusqu'au début du 19e, puisque Pélo était le dernier corsaire français. Et Pélo est mort dans la première moitié du 19e siècle.
Ah oui.
Ceci étant dit, donc, il y avait des rivalités très, très fortes. À cette époque-là, donc au 16e, le Danemark administrait l'Islande, et pour éviter que les marins basques ne viennent piller trop fréquemment l'Islande, le roi du Danemark avait instauré un décret qui indiquait qu'il était possible, sans aucune condamnation, de tuer tout basque qui s'approchait du rivage islandais.
Oui.
Et cette réglementation, ce décret, a perduré jusqu'en 2015.
Oui, c'est ça qui est fascinant, 2015.
Il faut attendre 2015. Il faut attendre l'intervention du gouvernement espagnol, basque espagnol, pour que l'Islande abroge ce décret qui remontait donc à quasiment 5 siècles.
Voilà, donc c'est intéressant, c'est vraiment une témoignage de ce qui s'est passé, les compétitions qu'il y a eu à l'époque, hein, pour des ressources qui étaient fondamentales. On va déjà faire une première petite pause, une petite pause musicale, et on se retrouve ensuite pour la deuxième partie de cette émission. Et voilà, de retour avec Jean-Sébastien Alti. Donc on a un petit peu parlé du contexte historique et géographique autour de... Voilà, on a parlé, avant de parler du joyau, on a parlé de l'écrin, hein, on va dire, un petit peu. Alors, ce château, alors j'avais envie de faire venir quelqu'un pour en parler, faire découvrir un peu aux auditeurs qui ne connaissent pas. Bon, c'est un peu plus éloigné du territoire que ce dont on parle d'habitude. Mais bon, c'est l'été, c'est le moment aussi, on va faire des balades, on va aller au Pays Basque, etc. C'est vraiment, le bâtiment est vraiment particulier, il est très beau. Extérieur, intérieur, et le cadre aussi est quand même... Il y a vraiment une balade à faire. Alors, de quand date ce bâtiment et quelle est son histoire ? On ne peut pas déconnecter d'une personne.
D'accord. Alors, pour vos auditeurs déjà qui sont sur le sud des Landes, on n'est pas très très loin, on est uniquement à 35 minutes de route,
voilà.
On va dire de Boucau-Tarnos, donc c'est pas très très loin. Donc c'est un château qui a été construit par ou pour Antoine d'Abadie, d'Arast, qui était basque par son père et irlandais par sa mère. Cette personne est née en 1810 à Dublin, en Irlande, et il va vivre le début de sa jeunesse, jusqu'à ses 10 ans, directement à Dublin. Puis il va rentrer en France, et à ce moment-là, il parle déjà le français, le basque, l'anglais et le gaélique, puisque c'est, donc, il arrive d'Irlande. Voilà. Et donc, à l'âge de 18 ans, il fait partie des 100 plus grosses fortunes de France. Donc, ça lui donne l'occasion de beaucoup voyager. À 18 ans, il va déjà faire le Maghreb, la Turquie, le Brésil, Voilà. Et ensuite, quelque chose qui était très, très en vogue au 19e siècle, c'était de rechercher les sources du Nil.
Mmh. Ah donc, oui, oui on a, j'ai vu plein de films sur ça, d'ailleurs.
Il y en a beaucoup.
Ouais, 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 c'est vrai.
Mais c'était vraiment quelque chose qui était très, très recherché. Mmh. D'où part le Nil ? Quel est son berceau ?
C'est vrai, ouais.
Et donc, il va partir avec son frère cadet, Arnaud, chercher ses sources du Nil. Et finalement, il va vivre en Éthiopie, qu'on appelle alors l'Abyssinie, pendant une quinzaine d'années. Il va vivre comme la population locale. Il n'est pas là-bas pour les évangéliser. Mmh. Il est là pour comprendre leur culture, comprendre leur langue. Et donc, pendant ces 15 ans, l'Éthiopie va lui devoir pas mal de services. Notamment, c'est le premier à rédiger un dictionnaire franco-amarique, l'amarique étant une des langues parlées en Abyssinie. Mmh. Il va être aussi le premier à cartographier le pays. Mmh. Donc, il a vraiment fait beaucoup de choses pour l'Éthiopie. Et lorsqu'il va décider de regagner l'Europe, il va acquérir petit à petit 415 hectares de terrain. Mmh. Pour faire simple, tout ce qui était entre le sud de Saint-Jean-Luz, entre Sokoa, et le milieu de la plage d'Andaï, toute la corniche basque lui appartenait. Mmh. Donc sur ces territoires-là, il va installer différents fermiers pour s'occuper de sa propriété. Au total, il y aura 35 familles de métayers, avec encore de nombreuses maisons qui sont visibles, qui servent soit à accueillir du public, notamment je pense à la maison de la corniche, qui explique la faune, la flore de ce milieu-là. Mmh. Ensuite, il va décider de faire construire son château sur la corniche, mais il veut que le château soit le point culminant de la corniche. Mmh. Donc le premier travail, c'est de faire en sorte de niveler les terrains et de faire une butte pour que vraiment, sur ce promontoire, on trouve le château. Et pour construire son château, il s'entoure des meilleurs. Donc les meilleurs pour le parc, ce sont les frères Buller, qui ont notamment fait le parc Bordelais ou encore le parc de la Tête d'Or à Lyon. Mmh. Et pour la maison, il s'entoure d'un architecte qui est plutôt en vogue, dans les années 1860, c'est Viollet-le-Duc, à qui on doit déjà la restauration des remparts de Carcassonne ou de Notre-Dame de Paris.
Notre-Dame de Paris aussi, ouais. Ouais.
Voilà. Donc, avec ces artisans-là, donc, il va construire son château. Donc, on est sur un château de style néo-gothique. La construction va s'étaler pendant 20 ans, entre 1864 et 1884. Donc, néo-gothique, ça veut quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on est sur une grande maison qui ressemble à un château un petit peu à un manoir irlandais, avec des créneaux. Un bestiaire, on trouve de très nombreux animaux sur les façades du château, des serpents, des crocodiles, des singes, des grenouilles, des livrées, donc énormément d'animaux, donc c'est un château qui plaît beaucoup aux enfants. Et ensuite, à l'intérieur, on retrouve un château qui est particulièrement riche en décoration. Aujourd'hui encore, c'est un château qui est meublé avec le mobilier d'époque d'Antoine d'Abbadie. Il y a eu 15 ans de travaux de restauration depuis sa réouverture au public en 1995. Et ce château retrace toute l'histoire d'Antoine d'Abbadie. C'est un petit peu son testament, puisque quand il commence, comme je disais, la construction du château, il a 54 ans, en 1864. Et donc, on va retrouver dès le vestibule différents dessins, différentes gravures, différents objets qui rappellent l'Éthiopie. Des cornes de buffle, des boucliers d'apparat, des scènes de la vie courante, avec la fabrication notamment de l'injera, qui était la galette de pain local. Voilà. Et ensuite, on va rentrer dans l'observatoire, qui est d'ailleurs la première pièce qui a été construite dans le château Observatoire Abadia, d'où son nom. Et de cet observatoire ont été cartographiés jusqu'à la fin de son activité en 1975, donc en à peu près un siècle, pas moins de 50 000 étoiles. Donc le système qui a été utilisé, c'était le suivant. Faut s'imaginer dans une pièce, on a le toit qui s'ouvre par un système de poulies, une lunette méridienne, c'est-à-dire que tous les soirs, on va balayer une méridienne terrestre différente puisque la Terre tourne, et on observe le ciel. Une fois que les étoiles des étoiles ont été observées, on a des équipes de scientifiques qui montent au premier étage du château, dans une magnifique bibliothèque qui comptait à l'époque pas moins de 10 000 ouvrages, et les équipes scientifiques calculaient précisément la position des étoiles. Je vais arrêter l'histoire à ce niveau-là. Il faut savoir qu'à la fin de sa vie, Antoine d'Abbadie, en 1897, n'a pas d'enfant. Il est alors président de l'Académie des sciences et il décide de léguer son château à l'Académie, qui en est aujourd'hui encore propriétaire.
Très bien. Ben, merci beaucoup. On va continuer à parler un peu de tout ça, puis de cet homme un peu exceptionnel. Hein. Il fait partie d'une certaine catégorie de personnes à une époque. Il avait la chance d'être fortuné, donc de pouvoir aller au gré de ses envies, hein, de ses désirs. On va d'abord faire une petite pause musicale, écouter le Flash Info Local, et on se retrouve ensuite. Et nous voilà de retour. Alors c'était Mikado. On parlait d'hiver dans cette chanson, mais c'est vraiment, c'était de la clim mentale que je vous ai fait. Hein. C'était rien que le mot hiver nous fait baisser d'un degré l'impression qu'il fait dans la pièce. C'est vraiment pour se raccrocher à ce qu'on peut, parce qu'en ce moment c'est un petit peu rude. Alors on retrouve Jean-Sébastien. Oui, donc on a parlé de ce château, du site et de la personne. Alors cet homme-là. Il était quand même, est-ce qu'il a une formation académique, scientifique? Parce qu'on voit bien quand même dans les choses qu'il a fait, c'était pas juste un petit amateur. Il a quand même été plus que reconnu.
Alors on va dire que déjà, il a la chance de naître dans une bonne famille. Sa famille comptait parmi les 100 plus grosses fortunes de France.
Ouais, ouais.
Donc cela a aidé à faire déjà tout ce que j'ai pu vous compter en amont. Et après, c'était plutôt un autodidacte. Mmh. Alors il a plusieurs facettes. Hein. Alors c'était un linguiste. Il parlait couramment, à la fin de sa vie, 14 langues. 14 langues couramment.
Eh ben.
C'est pour ça que dans le château, d'ailleurs, on va trouver des devises qui racontent un petit peu sa philosophie dans toutes les pièces, dans différentes langues.
Oui.
Bah, l'une d'entre elles que j'ai en tête, notamment dans la bibliothèque dont on parlait tout à l'heure, c'est « Il suffit ». Alors, ça va être votre sujet de philosophie ou de discussion de midi.
Allez, vous avez 4 heures.
J'ai 4 heures, c'est ça. Donc, attention, le sujet est le suivant. « Il suffit d'un fou pour jeter une pierre au fond d'un puits,
voilà.
Mais il faut 6 sages pour la récupérer. »
Voilà, je l'avais noté, celle-là. Elle est bien. Moi, ouais, j'aime bien celle-là. J'aime bien les citations, des fois, comme ça, il y a des trucs sympas, ouais.
Ensuite, c'était un homme de science. Donc, il a travaillé à la cartographie de différents pays. Il a imaginé ce qu'on appelle la géodésie expéditive. En gros, c'est un système de miniaturisation de différents objets pour faire en sorte, par un système de triangulation, de pouvoir dessiner l'espace et le cartographier par la suite. Il a mené de nombreuses expériences scientifiques à Badia. On a déjà parlé donc de l'astronomie. On peut parler aussi d'une expérimentation qui a permis de démontrer que les méridiens terrestres, hein, ces lignes qui vont du pôle nord au pôle sud, ne sont pas des lignes fixes, mais que ce sont des lignes qui varient au fil des jours, des saisons, etc. Et il a imaginé un outil qui s'appelle une nadiran.
Voilà, c'est ça.
Avec un système à base de mercure pour démontrer que ces méridiens terrestres n'étaient pas des lignes fixes. Et tout ça lui a valu à la fin de sa vie d'être élu président de l'Académie des sciences.
Oui, c'est pas rien.
C'est pas rien. Après, c'est aussi un homme de foi, ce qui n'était pas des choses qu'on pouvait opposer. C'est pas un paradoxe. On peut être scientifique comme de foi, surtout au 19e.
Bien sûr.
C'est un homme de foi. Donc, dans son château, on trouve une chapelle. Chapelle, d'ailleurs, sous laquelle il est enterré aujourd'hui. Et je pense à un objet que l'on a dans la chambre de la tour. On a un prie-dieu. Et sur ce prie-dieu, ce qui exprime vraiment la manière de voir les choses pour Antoine d'Abbadie, c'est qu'en haut de ce mobilier, on trouve une vierge à l'enfant, et la vierge, elle écrase de son pied, ce qui est rare, un petit singe qui représente le démon. En gros, la partie sainte, le côté foi, l'emporte sur le volet scientifique. C'était vraiment la manière de voir les choses pour Antoine d'Abbadie.
D'accord, ouais. Ouais, c'est intéressant. Ouais, tout ça découle vraiment d'une personnalité particulière, hein, quelqu'un qui a voyagé et scientifique. C'est vrai que c'est pas négligeable. Les travaux qu'il a fait, c'était pas juste du bricolage. Hein, il a vraiment des choses qui sont restées. D'ailleurs, pour avoir ce poste à l'Académie des sciences, c'est quand même. Alors l'Académie des sciences, peut-être en parler un petit peu pour les gens qui savent pas trop ce que c'est, parce qu'on entend des fois. Moi, ce que je donne, c'est la définition qu'ils donnent eux-mêmes sur leur site. Hein, donc ça, l'Académie des sciences encourage, soutient et protège l'esprit de recherche scientifique et contribue au progrès des sciences et de leur application à la diffusion de celles-ci en France et à l'international et conduit des réflexes relatifs aux enjeux politiques, éthiques et sociétaux actuels ou futurs. Voilà, donc c'est un endroit qui est à la fois garant de la qualité, de l'intégrité et du rayonnement de la science en France, bien sûr, et dans le monde.
Tout à fait, absolument. C'est vraiment une des missions de l'Académie des sciences qui a quelques propriétés aussi en province. Il y en a deux majeures à Badia dont on a parlé, et l'autre, ce n'est plus ni moins que la maison de Pasteur dans le Jura. Et donc, c'est dans ce cadre-là, avec ce souci de médiatiser, de valoriser la science, que nous proposons à Badia tout au long de l'année des conférences qui sont animées bien souvent par des académiciens, donc vraiment des pontes qui viennent sur la commune d'Andaye pour parler de différents sujets. On a aussi la fête de la science qui est proposée chaque année au mois d'octobre, et cette année c'est la marraine de cette édition qui sera ni plus ni moins que la présidente, parce que c'est une présidente qui vient d'être élue à l'Académie des sciences, qui viendra parler de tout ce qui est intégration des nouvelles technologies pour la création des effets spéciaux dans le cinéma.
D'accord.
Donc c'est vraiment des sujets qui touchent le quotidien de notre population, toutes les générations. c'est pas que des sujets forcément très très pointus avec une image de la mathématique pure et dure. Voilà, c'est pas forcément totalement rigoriste.
Oui.
Et on organisera aussi avec l'Académie des sciences un nouveau rendez-vous à partir de juin 2027 qui sera une sorte de journée porte ouverte pendant 48 heures où on aura des débats, des conférences, des expositions qui seront proposées à tout un chacun. Et j'en parle d'ailleurs à vos auditeurs, on va lancer dans quelques jours un concours photo qui se déroulera du mois d'août jusqu'au mois de novembre autour de l'environnement, de la science, du réchauffement climatique, avec des expositions qui seront proposées ensuite dans le parc du château Abadia. Mmh. Tout le monde peut y participer. Il y a des bons cadeaux de plusieurs centaines d'euros gagnés et aussi l'occasion en 2028 de gagner un accès gratuit à la totalité des manifestations organisées sur Abadia.
Ah mais d'accord. Très bien. Alors, il y a aussi dans les expériences, on va juste la citer parce qu'on ne veut pas spoiler, il y a des trous. Qu'est-ce que vous pouvez en dire, juste histoire de donner envie aux gens de découvrir ce que c'est.
On va donner quelques. Alors, c'est l'énigme des trous.
Voilà.
Tout visiteur qui vient à Abadia va entendre parler dès le porche du château de cette énigme des trous. Donc, on a un certain nombre de trous qui sont alignés dans différentes pièces du château.
Ouais.
C'est pas le fruit du hasard, c'était souhaité par Antoine d'Abadie.
Mmh.
Et la question qu'on se pose, que tout visiteur se pose, c'est pourquoi ces trous et pourquoi des trous aujourd'hui dans des murs qui, pour le reste, sont totalement recouverts de magnifiques peintures.
Oui, c'est vrai que ça peut être surprenant. Ouais. Alors, oui, c'est vraiment l'endroit qu'il faut visiter. J'allais dire que chaque pièce a presque sa charte graphique, hein, avec des couleurs ou des styles, des fois qui peuvent varier. Ça peut être des fois un peu chargé, entre guillemets, mais c'est vraiment toujours fait quand même avec goût et c'est très beau. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Je trouve ça vraiment. Il y a des très belles pièces, il y a des chambres, une chambre un peu bleue. Il y a vraiment quelque chose. De remarquable dans ce bâtiment, je pense.
Alors, le château est entièrement meublé avec le mobilier d'époque, je l'ai déjà dit, et chaque pièce est décorée selon différentes thématiques. Donc, dans de nombreuses pièces, on retrouve le côté éthiopien. On va trouver des pièces aussi. Alors, vous parliez du bleu. Le bleu, pourquoi ? Parce que le bleu était la couleur préférée de Virginie d'Abadie, qui était l'épouse d'Antoine. Et donc, le bleu, on le retrouve dans sa chambre, notamment. Ensuite, on a aussi un côté très oriental, notamment le salon arabe. Alors, on n'en a pas parlé, mais Pierre Loti, donc l'auteur de Ramuncho, était le commandant de la station navale de l'Abbaye d'Assois, alors même qu'Antoine d'Abadie était en Andaï, donc à la fin du 19e siècle. Ils se côtoyaient régulièrement. Pierre Loti est un proche de Virginie d'Abadie, notamment parce qu'une passion commune les ramenait l'un vers l'autre, c'est le piano. Et si un jour, ou si vous avez déjà visité la maison de Pierre Loti à Rochefort, on découvre là-bas un magnifique salon arabe, et ce salon arabe fait penser vraiment beaucoup à celui d'Antoine d'Abadie. Pourquoi ? Parce que Pierre Loti l'a vu à Andaï avant de faire construire sa demeure. Et ensuite, dans les différentes pièces, on va trouver des fumoirs, on va trouver une belle salle à manger avec du mobilier de couleur verte, le velours vert, couleur de l'Académie des sciences, des cheminées avec un aspect néo-gothique, toujours ces créneaux, ces bêtes, ces animaux fantasmagoriques qu'on retrouve un petit peu partout. Et là encore, vous parlez de citation, on a sur les chaises que l'on a dans le grand salon, on a une langue éthiopienne qui est utilisée, c'est une sorte de symbole qui pourrait faire penser de près ou de loin à des hiéroglyphes. Voilà, c'est, en tout cas, c'est pas notre alphabet. Et lorsque les chaises sont mises en place tout autour de la table dans un ordre certain, ça forme une phrase. Et la phrase veut dire « Gageons qu'il n'y ait aucun traître parmi nous ».
Ah,
parce qu'Antoine d'Abadie, qui était aussi maire d'Andaï, n'était pas dupe de toutes ces personnes qui venaient le voir régulièrement. Certaines étaient là pour quémander certains services. Et donc, c'est un petit jeu de mots, un petit jeu d'esprit qu'avait fait Antoine d'Abadie.
Il y a presque un escape game intégré au château avec tout. C'est vrai que alors vous faites des médiations. Je ne sais pas s'il y a une qui fait un petit peu aller chercher toutes les citations ramener toutes les citations qu'on peut trouver dans le bâtiment.
Alors, il y a quelques citations qu'on peut retrouver sur un document qui est proposé à la sortie de la visite, avec toutes les citations qu'on retrouve sur le château. Après, pour les plus jeunes, on a un jeu de piste qui se déroule dans le parc du château, pour les enfants de 7 ans jusqu'à 12 ans. Et on propose aussi, alors, tout au long de l'année, des escape games mobiles. Donc, on est accroché avec des menottes à des malles. Il faut résoudre les différentes énigmes qui sont très fiables par rapport à la vie d'Antoine d'Abadie pour réussir à quitter ces menottes, en sachant que le scénario est le suivant. Une société secrète se réunit tous les 100 ans pour chercher, pour trouver le digne héritier d'Antoine d'Abadie. Si vous arrivez à vous libérer de vos menottes, ce sera vous.
Ah oui, ça motive.
Et on a des grandes soirées enquêtes qui sont proposées aussi plusieurs fois dans l'année. La prochaine a lieu le 24 juillet, donc c'est sur notre site internet châteauabadia.fr, qui permet donc de résoudre, on va dire, un énorme cluedo dans la totalité des pièces du château.
Ah oui, dans la bibliothèque avec un chandelier. Hein.
C'est ça, et voilà. le colonel Moutarde n'est pas très loin.
Voilà, c'est ça, ouais, c'est, le cluedo, ça reste un classique. Hein. Rapidement, avant de faire une dernière pause, on a parlé de Virginie d'Abbadie. Elle a aussi une histoire à elle. Elle a fait des choses. Elle a été contrebandière comme pas mal de gens, mais bon, dans le coin, mais pas pour des raisons financières. On en a parlé. C'était plutôt la belle vie, mais pour des raisons politiques.
Hein. Ouais, c'est ça. Donc Virginie d'Abbadie, elle aussi faisait partie des 100 plus grosses fortunes de France.
Et ouais, bah,
c'est un mariage d'amour néanmoins entre les deux parties que l'on a. Et donc, elle était fan de musique classique. Elle jouait du piano. Elle aimait beaucoup les animaux. Elle avait un perroquet au niveau du château, et elle soutenait la cause carliste. C'est-à-dire qu'en Espagne, on a deux mouvements politiques qui sont opposés pour la succession au trône, les Bourbons d'un côté, les carlistes de l'autre, et Virginie d'Abbadie avait pris le parti de la cause carliste. Donc elle avait acheté 14 000 fusils, et il fallait amener ses fusils côté espagnol.
Là, c'est...
Sauf qu'une fois les fusils arrivés en Andaille, problème, comment faire pour les passer?
Et, oui.
Et ben, elle a dû faire de la contrebande, c'est-à-dire qu'elle a dû acheter... Encore fallait-il avoir les moyens, mais elle a pu acheter un bateau, et c'est par bateau de nuit que les armes sont passées de Hendaye jusqu'à Andarribia. Mais on vous raconte l'histoire à la Cité des Mémoires dans ce nouveau musée qui est ouvert il y a 2 ans.
Bien sûr. Et alors, et son mari, lui, était au courant? Il était d'accord ou elle faisait ça dans son dos?
Non,
parce que politiquement, il devait peut-être être un peu plus...
Les deux époux étaient d'accord à signer là. Ils étaient alignés.
Ok, d'accord. C'était pas une... Elle faisait
pas
ça
une cause de divorce.
Non, d'accord. Très bien. On va faire une dernière pause. On va écouter encore un petit peu de musique. On se retrouve ensuite pour la conclusion de cette émission. Et nous voilà rendus la dernière partie de cette émission. Donc, bon, hein, j'espère qu'on a atteint l'objectif qui était un petit peu de donner envie à nos auditeurs, auditrices qui connaissaient pas encore ce lieu de le visiter. Parce que c'est vrai que c'est un joyau. D'ailleurs, c'est un monument historique. Et le site est classé un label que je ne connaissais pas. Bon, il existe tellement, c'est les illustres, Maison des Illustres. Ouais, voilà, donc ça, c'est. Il y en a combien en France comme ça?
Une centaine.
Ouais. Et donc voilà, c'est des endroits où il y a. C'est par rapport au lieu et à la personne, en fait.
C'est ça. C'est par rapport à ce qu'a pu faire la personne, que ce soit au niveau scientifique, au niveau littéraire, au niveau culturel, peu importe. Quelqu'un qui a marqué l'histoire de France.
Voilà. Et donc, voilà, et monsieur d'Abbadie, il en a fait partie de ces gens-là. Voilà, il y a une trajectoire. Ben, une belle vie, j'allais dire, quand même.
Ah, une belle vie, puisqu'il va quand même mourir à l'âge de 87 ans.
Oui, ce qui est honorable.
Donc, quand on sait qu'on est à l'aube du XXe siècle, à la fin du XIXe, c'est quand même un très très bel âge.
Ouais, et puis il a fait plein de choses. Il a été maire d'Andaille.
Maire d'Andaille, on a parlé. Voilà, ouais. C'était un proche de Napoléon III, ou plutôt de Louis-Napoléon Bonaparte. Ouais. Napoléon III, le Second Empire, c'était moins sa tasse de thé au niveau des orientations politiques. Voilà. Mais il a fait beaucoup de choses pour l'histoire locale. J'ai oublié de parler d'un point qui est important, c'est que c'est quand même lui qui a rédigé le premier dictionnaire franco-basque.
Ah oui.
Il n'a pas rédigé que fait qu'un dictionnaire avec l'Éthiopie. Franco-basque. Et puis à la fin de sa vie, Antoine d'Abbadie, la population locale, qu'elle soit française ou espagnole, l'appelait Euskalaita, le père des Basques. Pourquoi? Parce que au-delà du fait d'avoir rédigé ce dictionnaire franco-basque, il a aussi créé les Jeux Floraux, qui étaient des compétitions lyriques et culturelles entre les villes et les provinces basques. Et un diplôme lui a été remis avec Euskalaita à la fin de sa vie. C'est une personne qui est finalement beaucoup plus connu côté espagnol que côté français, puisqu'on reçoit, nous, au moins tous les 2 ans, le gouvernement espagnol pour remettre un prix à Antoine d'Abbadie qui récompense les œuvres et les actions mises en place en faveur de la langue basque et de la culture basque, alors que ce n'est pas le cas en France. Voilà, c'est d'ailleurs étonnant,
oui.
Mais c'est une réalité.
Tiens, voilà, bon, c'est
donc
comme ça.
Donc c'est l'occasion peut-être
voilà,
de remettre
voilà, on parle un peu
Antoine
de
d'Abbadie à sa place au cours de votre émission.
Ben oui, bien sûr, très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe par chez vous dans les semaines ou les mois qui viennent, l'été, tout ça? Il y a plein de choses qui se passent.
Alors, pour rester un petit peu dans la lignée de ce qu'on a dit, on va avoir de très très belles conférences qui vont être proposées cet été. Je ne sais pas si vous le savez, mais D'Artagnan est passé par Andaille.
Ah.
Voilà, donc on parlait de...
Décidément, on cherchait le centre du monde, c'était Andaille, on ne le savait pas.
C'est le centre de l'Europe,
ouais.
C'est tout. On va être modeste.
Ouais.
Voilà, donc on a une conférence sur D'Artagnan et Louis XIV, on a des conférences sur la sorcellerie. On n'en a pas parlé au cours de votre émission, mais il y a de nombreux épisodes au Pays Basque qui sont passés au début des années 1600, sous Henri IV, avec un procès, notamment en 1609, où on avait Pierre de l'Ancre.
C'est vrai,
qui,
oui.
Pour chasser les sorcières. Alors, les sorcières, pourquoi ? Parce que les femmes basques parlaient basque, c'était une langue qui était intrigante.
Ben oui.
Elles avaient des coiffes qui faisaient penser un petit peu à des objets phalliques.
Oui.
Elles osaient sortir le soir et danser.
Oui.
Soi-disant sous les plages, il y avait des sabbats.
Ben oui, bien
et c'est
sûr,
tout ça qui a provoqué donc, le procès des sorcières sur le pays.
Mais alors, sur Arte, alors, je ne me rappelle plus trop le titre, il y a une super série.
Oui, tout à fait, absolument.
Vraiment géniale. Et ça, est-ce que vous dites, effectivement, je me rappelle de ça.
Et ça.
Alors, je ne me rappelle plus le titre, mais ça, c'est vraiment génial. J'avais découvert plein de choses sur ça. Henri IV, l'histoire de religion, les protestants et tout ça. Voilà, c'était vraiment super.
Ouais. Et on parle de tout ça donc, à la Cité des Mémoires aussi, avec des tableaux qui sont des reproductions officielles de Goya, de Velázquez, certains tableaux qui viennent de Londres où on voit les armées napoléoniennes les armées espagnoles qui pourchassent les armées napoléoniennes avec Wellington à leur tête.
Mm-hmm.
Voilà, on parle des corsaires, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc le mieux c'est d'aller sur notre site internet andai-tourisme.fr. Vous aurez accès aux conférences, accès à la Cité des Mémoires, accès à Abadia par ce site internet qui recense vraiment toute l'information qui se déroule sur notre commune.
Voilà, bon, on mettra comme il se doit un lien internet avec le podcast sur notre site web comme tous les jours. Et puis il y aura le podcast où les gens pourront nous réécouter, hein, pour propager la bonne parole. Voilà, moi j'ai envie de dire bon retour, bon courage. La clim fonctionne bien dans la voiture, hein.
Impeccable, ça fonctionne bien pour l'instant.
Très bien, voilà, je vous le souhaite parce que ça va être chaud. Mais bon, Andaï, la mer est pas loin, hein.
La mer est pas loin, certains sites sont climatisés. Donc venez, on vous attend impatiemment.
Voilà.
Et je suis sûr que vous repartirez avec de très très beaux souvenirs.
Très bien, merci beaucoup Jean-Sébastien d'être venu nous parler de présenter votre belle ville et ce fameux château. Merci beaucoup et bon retour.
À très bientôt Jean-Philippe, merci beaucoup.